Décryptage, Anne Cantner.
Bonsoir à tous. Nous parlons ce soir encore de la pandémie de coronavirus qui domine l'actualité. Dans le monde entier, les chefs d'État, les gouvernements prennent des mesures pour limiter la progression de la maladie, notamment des mesures de confinement. Rester chez soi, sortir le moins possible, cela concerne 4 personnes sur 10 dans le monde aujourd'hui. 4 personnes sur 10 incitées ou contraintes au confinement. C'est le cas sous différentes formes, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Congo. Mais pour beaucoup, le confinement pose des problèmes immédiats, des problèmes de survie, en Afrique notamment, où l'économie informelle est très importante. Elle représente plus de la moitié du PIB de l'Afrique subsaharienne, selon la Banque africaine de développement. Alors, est-il possible d'appliquer un confinement strict en Afrique? Et surtout, est-ce que c'est souhaitable? On en parle pendant les 20 prochaines minutes. Pour en parler, deux invités. Bonsoir Augustin Augier. Vous êtes directeur général de l'ONG Alima, c'est une ONG qui travaille pour apporter une aide médicale en Afrique. Nous sommes en ligne aussi avec Roen Daigle-Pierre, économiste spécialisé dans l'économie du développement. Vous vous trouvez en ce moment au Congo-Brazzaville où vous travaillez pour l'Agence française de développement, notamment pour le Congo, mais aussi pour la région, pour l'Afrique centrale. Bonsoir.
Bonsoir.
Quelles sont les mesures qui ont été prises au Congo justement pour contenir cette épidémie de coronavirus ?
Alors au Congo, on a eu des mesures qui se sont mises progressivement en place et en fait, on arrive tout doucement. À partir de demain soir, on sera dans le confinement total. Les mesures seront précisées ce soir, mais avant ça, effectivement, donc on a fermé les écoles, on a fermé les lieux de culte, les lieux de rassemblement. On a diminué le nombre de personnes qui avaient le droit, par exemple, de circuler dans les minibus. Donc en fait, ça s'est fait relativement progressivement, mais maintenant, on arrive vraiment dans la situation du confinement total.
Est-ce que, de ce que vous avez pu observer, de ce que vous avez pu percevoir, ce sont des mesures qui sont bien acceptées ?
C'est des mesures qui sont quand même très difficiles à accepter. Ça a été un petit peu un choc, notamment parce que la mesure a été annoncée tout de suite pour 30 jours. Donc effectivement, il y a un choc à digérer. Et en fait, on a vu en fait cette annonce du confinement qui a quand même, et c'est le cas ici à Brazzaville, mais ça a été le cas dans pas mal de villes où cette annonce a été faite. On a vu en fait, et c'est assez paradoxal, une augmentation des déplacements interurbains, c'est-à-dire les gens qui quittent les grandes capitales pour aller se confiner ailleurs, un petit peu ce qu'on a vu avec les Parisiens en France. Et donc il y a un premier effet qui est assez contre-productif en fait sur cette annonce du confinement. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est une augmentation des prix. Évidemment, l'idée du confinement, c'est qu'on pourra peut-être difficilement chercher de la nourriture et s'alimenter pendant une trentaine de jours. Donc tout le monde s'est rué sur les denrées alimentaires, les prix ont beaucoup augmenté. Et donc ça amène des situations extrêmement difficiles. Donc vous l'avez dit, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on est à peu près à 9 personnes sur 10 qui sont dans l'emploi informel, c'est-à-dire qui sont payées au jour le jour. Et donc un jour non travaillé, c'est un jour non payé. Donc pour ces personnes-là, qui ont très très peu d'épargne, évidemment cette annonce, c'est un peu un choc et ça va poser des problèmes à des grandes difficultés.
Ça va poser des problèmes au quotidien. On va avoir l'occasion évidemment d'y revenir. Augustin Augier, pour l'instant, le continent africain est moins touché que les autres par cette épidémie. Et pourtant, on a entendu l'OMS, les Nations Unies insister sur le fait que la situation pourrait devenir catastrophique. Pourquoi est-ce que ces déclarations sont aussi alarmistes? Est-ce qu'elles sont réalistes selon vous?
Ce que la science nous dit, on ne sait pas tout. C'est une nouvelle épidémie, c'est inédit. Mais c'est qu'il n'y a pas de raison que la courbe épidémique soit différente en Afrique que dans le reste du monde. Elle est un peu plus tardive, parce qu'il y a moins d'échanges entre l'Afrique et le reste du monde, mais elle sera très probablement la même. Et on s'inquiète pour deux raisons principales. Il y a deux choses qu'il faut faire pour lutter contre cette épidémie. Baisser la mortalité pour les gens qui sont confirmés avec la maladie Covid-19, et ça on le fait assez bien en Europe, parce qu'il y a beaucoup de lits d'hospitalisation, 7 pour 1000 habitants en France par exemple. Beaucoup de réanimation, on peut donner de l'oxygène aux patients malades. Or, en Afrique de l'Ouest, par exemple, il y a 20 fois moins de lits, 0,3 lits pour 1000 habitants. Donc, ces patients malades, on ne va pas réussir à les prendre en charge et on risque d'avoir une mortalité plus élevée. Et puis, la deuxième chose qui inquiète particulièrement l'ensemble des acteurs de la santé publique, c'est cette question du confinement, puisque c'est la seule mesure pour le moment qui s'est avérée être efficace pour baisser la transmission de la maladie d'une personne à l'autre. Et pour les raisons qui viennent d'être évoquées, vu qu'on a peu de ressources et que les États ne sont pas en mesure de compenser les pertes de salaire des gens, comme c'est le cas en France, aux États-Unis, dans le reste de l'Europe ou en Asie, on se demande comment ces mesures de confinement vont pouvoir être appliquées.
Alors, on va avoir l'occasion justement d'entrer un peu plus dans le détail sur toutes les difficultés qui se posent à propos de ce confinement. Le pays qui compte le plus de cas sur le continent en ce moment, c'est l'Afrique du Sud. On a recensé près de 1300 malades. Dans ce pays, les autorités ont imposé justement un confinement, mais un habitant sur cinq vit dans des habitats informels. Donc en fait, pour le dire plus clairement, c'est quand même souvent dans des bidonvilles, hein, sans eau courante, sans toilette aussi parfois. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le confinement soit respecté dans ces conditions, Rohan Desglepierre ?
Ben, en fait, on va voir justement. Effectivement, c'est une situation complètement inédite, donc on va voir comment les populations vont réagir, comment la police et ceux qui sont en charge de faire maintenir l'ordre vont réagir. Mais on a déjà vu en Afrique du Sud, apparemment, les policiers tirer des balles en caoutchouc sur la population. Donc y a un vrai risque, effectivement, de violence, de fracture sociale et d'augmentation des inégalités, même de criminalité et d'augmentation de l'économie souterraine et des trafics, en fait. Si cette situation perdure, et on a toutes les raisons de penser que cette situation va durer dans le temps, on voit mal, effectivement, comment des bidonvilles et des quartiers où il n'y a pas d'accès à l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'accès au savon, on a vraiment des difficultés à imaginer comment ce confinement va pouvoir être mis en place sans des mesures très, très fortes de l'État pour accompagner en fait ce confinement. En fait, c'est la seule solution.
Alors, Rohan Desglepierre, vous le disiez, le confinement pose d'autres questions et notamment la manière dont on s'y prépare. On a vu à Kinshasa la semaine dernière que les prix des produits de première nécessité avaient tellement augmenté qu'en fait les autorités ont renoncé. Alors officiellement, elles n'ont pas renoncé, elles ont reporté le confinement. Mais est-ce que ça, c'est le cas partout ? Est-ce qu'on observe ailleurs une flambée des prix similaires ?
Oui, tout à fait. Ça a été le cas à Brazzaville où le sac de riz a vu son prix doubler. Donc oui, c'est assez normal parce qu'effectivement tout le monde se rue sur les quelques ressources qui sont là, en sachant qu'il n'y a pas forcément une pénurie, mais simplement on crée un choc vraiment sur la demande des biens alimentaires et donc forcément les prix augmentent et c'est impossible pour le moment pour l'État de contrôler ces prix-là. Donc effectivement il y a une énorme difficulté à ce niveau-là.
Est-ce que ça peut pas en créer même des pénuries?
Si, c'est tout à fait possible parce qu'on est dans beaucoup de pays d'Afrique. En fait, on importe une partie des biens alimentaires. Donc, on aura beaucoup de difficultés à réagir rapidement et à relancer l'agriculture familiale, l'agriculture au niveau de ces différents pays. Donc, si, ça peut créer vraiment une pénurie dans le moyen terme, entre guillemets. Et en tout cas, c'est sûr qu'on va au-devant d'un certain nombre de difficultés sur ces annonces de confinement si elles sont vraiment maintenues en l'état, dans le temps, parce qu'il y a quand même des possibilités d'assouplir un petit peu ces mesures. Et en tout cas, il faudra vraiment anticiper aussi la fin du confinement pour que tout ne recommence pas comme avant et que finalement, ça n'ait servi à rien.
Il y a un autre problème, évidemment, en ce qui concerne le confinement, vous l'avez évoqué rapidement tous les deux, c'est le nombre de personnes qui vivent de l'économie informelle. Ça représente un nombre énorme de personnes en Afrique, Augustin Augier.
Oui, absolument. Et ce qu'on voit bien avec le confinement, si des mesures sociales très fortes d'accompagnement ne sont pas prises, c'est que comme dans beaucoup de situations, ce sont les plus vulnérables qui vont se retrouver le plus dans la difficulté. Ceux qui ont les moyens, ils peuvent avoir des stocks, ils peuvent acheter du riz, même s'il est plus cher, ils se débrouilleront. Le problème, c'est les plus vulnérables, ceux qui vivent dans des crises humanitaires, dans des camps de déplacés ou de réfugiés, c'est des dizaines de millions de personnes en Afrique, des gens qui vivent dans des bidonvilles. Et ceux-là, la seule façon de faire, c'est qu'il y ait un énorme élan de solidarité internationale. Vous évoquiez dans le journal précédemment le rapport d'Oxfam, un plan Marshall mondial pour les pays les plus vulnérables. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que si on n'arrive pas à faire de confinement, le virus continuera à circuler dans les pays les plus fragiles et sera réintroduit partout ailleurs. Donc on a forcément besoin d'une stratégie globale de lutte contre cette maladie et pas uniquement de stratégie nationale. On peut pas, on doit évidemment s'occuper de l'urgence dans les pays européens là où nous sommes, mais on ne peut pas s'arrêter à ça. Et aujourd'hui, l'enjeu stratégique principal, c'est de pouvoir mettre en œuvre ces confinements. Et pour les mettre en œuvre, c'est des politiques sociales qui vont permettre aux plus vulnérables de survivre pendant ces semaines difficiles qui viennent devant nous de confinement. Et pour arriver à faire ça, on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de pays africains sont trop fragiles et trop pauvres pour y arriver seuls et que la seule solution, c'est un élan international de solidarité extrêmement puissant.
Ce dont vous parlez, c'est exactement ce qu'a évoqué le président du Bénin hier. Je cite ce que disait Patrice Talon. Il s'est posé la question dans une allocution. Combien de personnes ont un salaire mensuel et peuvent attendre 3 ou 4 semaines sans travailler? D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a décidé de ne pas imposer de confinement. C'est une sorte d'arbitrage, en fait, Roen Daigle-Pierre, entre des raisons économiques et puis des préoccupations sanitaires.
Tout à fait. En fait, encore une fois, c'est une situation inédite. Donc, on n'est pas très clair, en fait, hein, sur les avantages et les inconvénients de ce confinement. On le saura dans quelques mois avec tous les exemples qui seront passés. Donc, on pourra analyser ça. Mais comme là, on ne l'a jamais vécu, on ne sait pas, en fait, finalement, si ce confinement qui est adopté par certains pays, qui est refusé par d'autres, va fonctionner dans la durée. Et donc, en tout cas, je rejoins effectivement ce qui a été dit par mon prédécesseur, mais il y a vraiment un enjeu d'accompagnement, mais d'accompagnement à très court terme, parce qu'effectivement, on a besoin d'un appel aux dons, on a besoin que la communauté internationale se mobilise. Évident, effectivement, que cet enjeu de santé est mondial, et il y a une interdépendance complète, mais là, on est vraiment dans du très court terme. En fait, à partir de demain, des villes comme Lagos, comme Abuja, seront en confinement total. Et donc, c'est là qu'on a besoin, effectivement, d'agir à très très court terme sur l'aide alimentaire, comme ça a été fait par exemple au Rwanda, par des cash transferts, donc ces programmes de transfert de fonds directs à des ménages plus vulnérables, peut-être de la gratuité dans les services de base, l'accès à l'eau, l'électricité, les services publics évidemment, ceux qui fonctionnent. Donc on a clairement deux, je pense qu'il y a un enjeu de très 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 court terme, et là on est dans une situation tellement gravissime que en fait on ne peut compter que sur nous-mêmes pour le moment, parce qu'effectivement les avions ne fonctionnent pas, les frontières sont fermées, on ne peut pas aller chercher du personnel de santé ou même des équipements à l'extérieur, ou alors très peu. Donc il faut vraiment, à très très court terme, que les États quand même aillent chercher les ressources pour effectivement mettre un système d'accompagnement de ce confinement sur des enjeux très très basiques, comme l'accès à l'alimentation et à l'eau.
On voit bien déjà en Europe à quel point c'est compliqué de proposer des aides financières pour tous ceux qui ne peuvent pas travailler, qui ne peuvent plus travailler. Là encore, le président du Bénin en a parlé hier en expliquant tout simplement que son pays n'avait pas les moyens de débloquer des sommes faramineuses pour compenser les effets d'un confinement éventuel. Ces aides, ces compensations dont vous nous parliez, Augustin Augier, est-ce qu'elles doivent venir de la communauté internationale? Est-ce que les États africains peuvent eux-mêmes mobiliser déjà des ressources pour pouvoir intervenir très rapidement, comme nous le disait Roen Daigle-Pierre?
Je pense d'abord qu'il ne faut pas mettre tous les États au même niveau. Il y a évidemment des niveaux de richesse différents d'un État à l'autre, avec des proportions de personnes vulnérables qui varient grandement au sein du continent. Donc il ne faut pas parler de l'Afrique comme ça, comme d'un ensemble tout à fait homogène. Il est évident que chaque État a la responsabilité de lutter contre cette épidémie, donc doit y mettre ses ressources propres.
Maintenant, il y a même dans des États qui ont des économies plutôt solides, je pense par exemple au Nigeria, Lagos et Abuja vont se retrouver confinés à partir de demain. Ça représente 30 millions de personnes, le nombre de personnes qui seront confinées. Est-ce que le Nigeria, qui est une des grosses économies du continent africain, peut faire face à ça?
Oui, c'est une des grosses économies. Maintenant, est-ce qu'ils ont assez, suffisamment? Il y a plusieurs conditions pour réussir le confinement. Il y a les politiques sociales qu'on évoquait, mais il y a aussi l'acceptabilité par les populations. Est-ce que les gens ont compris pourquoi ils devaient se confiner? Quelle était la nature du danger? Comment ils allaient pouvoir lutter? Ça, c'est, il y a aussi ces questions politiques qui doivent être adressées. Est-ce que le Nigeria peut y répondre? Je ne sais pas. Les expériences qu'on a de confinement dans les épidémies, il y a eu des tentatives lors des épidémies d'Ebola en 2014-2015 en Afrique de l'Ouest, et notamment en Sierra Leone et au Libéria, où il y a eu des mises en quarantaine de quartiers entiers. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que, justement, ces deux points, expliquer intelligemment, faire confiance à la population pour qu'elle sache pourquoi elle doit se confiner et pourquoi ça va être difficile pour elle, ça n'avait pas suffisamment été fait à l'époque, et l'accompagnement social non plus. Donc on ne sait pas dire ce qui va se passer à Lagos ou à Abuja, puisque c'est inédit dans ces villes-là, dans ce temps-là. En revanche, ce qui est certain, c'est que au global, on a besoin de cette solidarité financière. Il faut que les États africains participent, parce que c'est leur responsabilité, mais on sait qu'un certain nombre d'États sont trop fragiles et trop pauvres pour y arriver à leur échelle. Parce que vous parlez du Nigeria, de Lagos et Abuja, mais probablement que l'épidémie est aussi ailleurs, dans d'autres zones. Donc à l'échelle d'un pays, on voit bien tout de suite que c'est impossible pour les pays seuls d'y arriver.
Alors, ça va dans le sens de l'appel qui a été lancé par le secrétaire général des Nations Unies. Vendredi dernier, sur notre antenne, Antonio Guterres a demandé 3 000 milliards de dollars pour aider les pays du Sud à faire face au virus. Donc, les pays du Sud, évidemment, ça ne concerne pas que l'Afrique, mais en partie. Est-ce que, selon vous, Rohan Daigle-Pierre, cet appel peut être entendu ou est-ce que les grandes puissances vont d'abord se concentrer sur leurs propres difficultés ?
C'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, l'urgence, malheureusement, elle est souvent, là en France, actuellement, c'est un message qui est difficile à faire passer, mais c'est ce qui a été dit par ailleurs, c'est qu'effectivement, on est dans une problématique mondiale. Donc en fait, si on ne règle pas ce problème au niveau mondial, en fait, le virus reviendra par différentes entrées. Donc on a besoin d'une réponse globale sur l'enjeu sanitaire, mais pas que, parce qu'effectivement, une fois que le virus et cette pandémie sera terminée, en fait, les économies africaines vont se retrouver dans des situations extrêmement délicates. Et donc là, effectivement, on a besoin d'annulation de dette, on a besoin d'un programme international qui soit très ambitieux. Mais ça, c'est un deuxième temps. Là, on est encore une fois dans le très très court terme. Et donc là, on a vraiment des enjeux effectivement d'agir sur le terrain. Et c'est un petit peu ce qui a été dit aussi, c'est vraiment un enjeu de responsabilisation et de confiance au niveau communautaire. Je pense que c'est vraiment là où il faut agir parce qu'il y a un défaut d'information sur cette pandémie et donc ça crée des peurs qui peuvent vraiment causer un certain nombre de problèmes. Et là, on doit pouvoir agir très, très rapidement par l'information et par des aides alimentaires très ciblées, très rapides. Et en fait, effectivement, à plus long terme, il va falloir probablement aider les États dans la durée, peut-être annuler les dettes, aider les ménages, encore une fois, avec des services publics gratuits, avec des transferts de fonds, et aider aussi les entreprises à reconstruire l'économie. Parce qu'en fait, l'économie africaine, enfin dans beaucoup de pays en tout cas, va être très, très, très impactée.
Je reviens sur la situation de tous ces travailleurs de l'économie informelle. En admettant qu'il y ait des compensations, comme le souhaite par exemple le président de Côte d'Ivoire, le président sud-africain qui ont dit qu'ils proposeraient des aides, comment est-ce que ça pourrait même fonctionner pour ce secteur informel, Augustin Augier ?
Aujourd'hui, on sait faire. Il y a beaucoup de ça fait des années qu'on a démontré que les cash transferts étaient des choses qui fonctionnaient bien pour les personnes les plus vulnérables dans les programmes humanitaires. Il y a des systèmes et tout le monde a un numéro de téléphone quasiment aujourd'hui en Afrique, y compris dans les pays les plus fragiles. On peut transférer du crédit, voire de l'argent, à la plupart des numéros de téléphone. Tout le monde connaît bien cette solution sur les terrains. Donc ce sera imparfait, ce ne sera pas un système à la welfare state comme on a dans les pays européens, qui d'ailleurs ne sont pas parfaits non plus, mais c'est faisable. Il y a aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, au transfert monétaire par téléphone, la possibilité de soutenir les populations. Et après, on peut cibler des quartiers en fonction de la taille de la famille. Et il y a plein de politiques possibles. S'il y a une volonté politique, des moyens et une explication, la mise en œuvre sera possible, y compris dans des temps très courts.
Vous nous parliez tout à l'heure de l'épidémie d'Ebola qui avait touché il y a 6 ans maintenant plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Ce virus Ebola, il a aussi sévi plus récemment en République démocratique du Congo. Est-ce que ça peut aider certains pays à faire face à la pandémie de coronavirus aujourd'hui, Augustin Augier ?
Ça peut aider, mais rappelons que Ebola, ça a concerné 4 pays sur 10 dernières années et encore une partie seulement de la RDC. Pour les 3 autres pays, malheureusement, la quasi-totalité. Donc ces pays-là sont mieux préparés, ont des équipes, des politiques, des chercheurs qui savent faire de la recherche dans ces épidémies-là et qui sont forcés. Après, ça rappelle aussi cette épidémie qu'il va falloir qu'on fasse un grand effort de solidarité vis-à-vis du personnel soignant sur le continent africain. Parce que confinement ou pas, le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, ils vont continuer à aller à l'hôpital, on sait qu'ils seront mal protégés, parce que pour le moment, il y a une vraie pénurie encore de matériel de protection dans la plupart des centres, à part dans les capitales. Et ces populations-là ne seront pas confinées, seront en première ligne pour aider leurs compatriotes. Et comme on l'a vu dans Ebola, à nouveau, ce sera eux les héros et j'espère qu'on continuera à les soutenir.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Décryptage touche à sa fin. Merci Augustin Augier, directeur général de l'ONG Alima, et Rohan Daigle-Pierre, responsable du pôle de développement humain au Congo et expert régional éducation en Afrique centrale pour l'AFD, l'Agence française de développement. Avant de se quitter, un petit rappel. Pour limiter la transmission du coronavirus, essayez de vous laver les mains, souvent avec de l'eau, du savon ou du gel hydroalcoolique. Toussez, éternuez dans votre coude et tenez-vous à distance des autres, 1 mètre minimum. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et portez-vous bien. Bonne soirée.